comme tous les premiers mercredis du mois, à 12h30, puis 17h sur Fréquence 7. Voici la rubrique Claire d'Étoile, présentée par l'association Claire d'Étoile et Brin de Jardin. Aujourd'hui, c'est avec Marilyn.
Et avec Daniel. Bonjour à toutes et tous.
Commençons par ce que nous pourrons voir à l'œil nu ou aux jumelles durant ce mois de février 2022.
On profitera des derniers jours de visibilité de Jupiter, seule planète visible à l'œil nu durant le crépuscule en ce moment.
C'est effectivement la seule visible à l'œil nu, car d'autres planètes sont actuellement présentes dans le ciel du soir. Mais il s'agit d'Uranus et Neptune, trop lointaines pour être vues sans instrument. Si Neptune, la plus éloignée, ne se laisse deviner qu'avec un télescope, on peut tenter d'apercevoir Uranus avec une bonne paire de jumelles stabilisées.
Justement, le 7 février, un gros croissant lunaire aidera à repérer sa position. Ce soir-là, la Lune se trouvera en conjonction géocentrique avec Uranus. C'est-à-dire que, de notre point de vue de terrestre, notre satellite et la planète sembleront très proches. En pointant des jumelles sur la Lune, le petit point d'Uranus apparaîtra environ 2 degrés plus haut.
2 degrés, cela correspond approximativement à un peu plus de la largeur du petit doigt vu au bout de notre bras tendu.
Oui, et bien sûr cette proximité n'est qu'apparente car la Lune se trouvera alors autour de 390 000 km de nous, alors qu'Uranus, bien loin derrière, sera à près de 3 milliards de kilomètres.
À cette distance, pas étonnant qu'Uranus, même 4 fois plus grosse que la Terre, soit invisible à l'œil nu. Mais où sont les autres planètes habituellement visibles à l'œil nu, à savoir Mercure, Vénus, Mars et Saturne ?
Les positions actuelles des planètes autour du Soleil font que, de notre point de vue de terrien, Mercure, Vénus et Mars apparaissent en fin de nuit. Jusqu'à mi-février, avant 7h du matin, nous pourrons voir au sud-est le puissant éclat de Vénus surplombant le petit point orangé de Mars sur sa droite et la discrète Mercure très près de l'horizon, plus loin sur sa gauche. Le 27 février, le soleil se levant de plus en plus tôt, c'est à 6h30 qu'il faudra être debout pour profiter d'un joli alignement du croissant de Lune sous Mars et Vénus. Saturne, quant à elle, restera invisible jusqu'à mi-mars car elle est en conjonction avec le Soleil. Elle passe, pour ainsi dire, derrière le Soleil.
Donc, sur les 5 planètes habituellement visibles à l'œil nu, 3, Mercure, Vénus et Mars, sont dans le ciel de l'aube. Et une seule, Jupiter, dans celui du soir.
Et cette dernière formera un beau tableau crépusculaire avec un fin croissant de Lune au-dessus de l'ouest, moins d'une heure après le coucher du Soleil. Ce 2 février, Jupiter surplombera la Lune et le 3, le croissant lunaire sera passé au-dessus de la planète. Ensuite, plus que quelques jours pour profiter du bel éclat de Jupiter, car de plus en plus bas sur l'horizon, elle ne sera plus visible à partir de mi-février. Durant les soirées des prochaines semaines, mis à part l'habituelle succession des phases de la Lune, la voûte céleste sera uniquement ponctuée de lointaines étoiles.
Étoiles qui constituent le splendide ciel d'hiver, dont la constellation la plus remarquable s'appelle Orion. Superbe repère pour apprendre à se balader dans le ciel d'hiver. C'est à elle que nous allons maintenant nous intéresser. Comme toutes les constellations, Orion est simplement une région du ciel, sans réalité physique. C'est-à-dire que les astres d'une même constellation ne sont que rarement liés physiquement et peuvent même être éloignés les uns des autres par des distances littéralement astronomiques. Les constellations permettent de délimiter des régions du ciel dont les formes ont été imaginées par les humains en reliant les étoiles les plus brillantes. Les peuples du monde entier ont défini leurs propres constellations de façon arbitraire, en projetant leurs mythes sur la voûte céleste.
Pour la région d'Orion, par exemple, les Babyloniens y voyaient un berger, pasteur fidèle du ciel. En Chine, une partie de cette région était le bec de la tortue, une autre portait le chiffre 3 pour bonheur, fortune et longue vie. Les Égyptiens y voyaient une offrande à Osiris, dieu protecteur des morts. Pour une ethnie amérindienne du Chiapas, c'était un pécari à collier, qui ressemble au sanglier. Pour la culture gréco-latine, il s'agissait d'un chasseur géant, réputé pour sa beauté et sa violence, qui avait essayé, selon les versions de la légende, de séduire ou défier Artémis, déesse des animaux domestiques en même temps que déesse de la chasse. Soit Artémis aurait voulu le punir, soit elle aurait été piégée par son frère Apollon, toujours est-il qu'elle fit sortir du sol un scorpion qui tua Orion. L'animal et le chasseur ont été immortalisés en deux constellations, mais éternels ennemis situés à l'opposé de la voûte céleste et n'apparaissant jamais ensemble. La constellation du Scorpion est en effet caractéristique du ciel d'été, alors que celle d'Orion règne sur le ciel d'hiver.
C'est cette dernière vision qui a été internationalisée. Car les 88 constellations officiellement définies par l'Union astronomique internationale en 1930, et maintenant utilisées dans le monde entier, sont pour la plupart inspirées des constellations grecques décrites par Ptolémée dans l'Almageste vers l'an 150 de notre ère. Pour revenir à Orion, comment faire pour la repérer ?
En début de nuit, pas très haut sur l'horizon sud-est en février, elle est facilement reconnaissable grâce à trois étoiles assez brillantes, à égale distance l'une de l'autre, sur une petite ligne oblique. Ces trois étoiles représentent la ceinture ou le baudrier du chasseur. Juste en dessous, un petit alignement d'astres figure son épée ou poignard, suspendu à la ceinture. Ceinture et épée sont encadrées par quatre étoiles formant un grand rectangle qui permet d'imaginer la silhouette du géant. Les deux étoiles au-dessus du baudrier marquent ses épaules et les deux étoiles du bas du rectangle sont ses pieds. En considérant qu'Orion nous fait face, son épaule droite est figurée par l'étoile Bételgeuse, très brillante et légèrement orangée, et son épaule gauche par la plus discrète Bellatrix. Un petit groupe d'étoiles au-dessus et entre les deux épaules évoque logiquement la tête d'Orion. Ses pieds sont représentés par les deux étoiles du bas du rectangle, à savoir l'étoile Saïf pour le pied droit et l'éclatante Rigel pour le gauche.
Orion est une grande constellation. On peut s'en rendre compte par la mesure approximative suivante. Bras tendus, pouces et petits doigts écartés au maximum, la distance entre le bout du pouce et le bout du petit doigt représente environ 20 degrés. C'est la taille de la diagonale entre l'épaule droite, Bételgeuse, et le pied gauche, Rigel.
Et comme tout chasseur, Orion est accompagné de ses chiens. Le petit chien et le grand chien sont deux constellations voisines. Sirius, l'étoile la plus brillante de tout le ciel, fait partie du grand chien. Au-dessus du sud-est, en février, impossible de manquer cet astre de belle taille que la proximité de l'horizon et la turbulence atmosphérique font magnifiquement scintiller. Il suffit alors de regarder un peu plus haut à droite pour retrouver les trois étoiles de la ceinture d'Orion.
Et si l'on continue de monter au-dessus et à droite d'Orion, on trouve Aldébaran, belle étoile orangée du taureau. En poursuivant dans la même direction, c'est sur les Pléiades que l'on tombe, toujours dans la constellation du taureau. Ce groupe de très jeunes étoiles, bien visible à l'œil nu comme un tout petit amas, est superbe à observer aux jumelles. La légende raconte que les Pléiades étaient les sept filles d'Atlas. Poursuivies par Orion, elles implorèrent le secours de Zeus. Celui-ci les transforma en colombes, puis en étoiles. Orion paraît toujours les pourchasser, mais il ne pourra, c'est sûr, jamais les atteindre.
Et maintenant, pour faire connaissance avec les composantes d'Orion, commençons par l'épaule droite du géant, la remarquable Bételgeuse. Sa couleur orangée, due à une température de surface de moins de 4000 degrés Celsius, contraste avec l'éclat bleuté de ses voisines. Bételgeuse est une gigantesque supergéante rouge d'un diamètre de 700 à 1000 fois celui du Soleil. Mise à la place de notre étoile, Bételgeuse engloutirait tout l'espace jusqu'à Jupiter. Son extrême luminosité, des dizaines voire des centaines de milliers de fois plus que notre Soleil, gêne l'évaluation précise de sa distance, qui serait de l'ordre de 700 années-lumière.
Rappelons qu'une année-lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en un an. La lumière voyageant à près de 300 000 km/s, en un an, elle parcourt près de 10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière, c'est donc, en chiffres arrondis, 10 000 milliards de kilomètres. Située autour de 700 années-lumière, Bételgeuse est donc environ 700 fois 10 000 milliards de kilomètres.
Cette supergéante rouge est une étoile en fin de vie à l'éclat instable. Dans les milliers d'années à venir, son cœur va battre de plus en plus irrégulièrement. Son enveloppe gazeuse animée de violentes pulsations se dilatera encore. Puis, avec l'arrêt des réactions nucléaires en son cœur, l'étoile implosera brutalement en supernova. Visible même en plein jour, cet astre illuminera le ciel durant plusieurs semaines avant de s'éteindre lentement.
À l'opposé de Bételgeuse, allons visiter le pied gauche du géant, l'étoile Rigel, distance de 800 années-lumière. Très brillante et légèrement bleutée, c'est aussi une supergéante. Son diamètre fait plus de 70 fois celui de notre étoile et elle brille comme 40 000 soleils. Rigel est une jeune étoile, formée voici moins d'un million d'années. Mieux vaut être à proximité de notre Soleil, étoile de taille modeste dont la durée de vie est estimée encore à 5 milliards d'années, plutôt qu'aux alentours d'une supergéante comme Rigel, qui va enchaîner ses réactions nucléaires à un rythme effréné pendant 2 ou 3 millions d'années avant de finir elle aussi en supernova. Aux jumelles, Rigel, dont la surface est portée à plus de 12 000 degrés Celsius, évoque l'éclat d'un diamant bleuté.
Remontons vers la ceinture d'Orion, que des références chrétiennes appellent aussi les trois rois. Ces trois étoiles se nomment, de droite à gauche, Mintaka, Alnilam et Alnitak. Toutes sont des supergéantes bleues, plus grandes et plus brillantes que le Soleil. Mais si Mintaka et Alnitak se trouvent respectivement autour de 1000 et 900 années-lumière, celle du centre, Alnilam, située à 2000 années-lumière, est l'une des plus lointaines étoiles visibles à l'œil nu.
Enfin, une dernière composante d'Orion que nous aurons le temps d'aborder, l'épée du chasseur suspendue à la ceinture. L'arme est figurée par des étoiles de part et d'autre d'une tache floue. Avec un ciel préservé de toute lumière parasite, on découvre que cette tache floue est en fait la grande nébuleuse d'Orion, située autour de 1500 années-lumière. À l'œil nu, on distingue la minuscule tache grise de cette nébuleuse, vaste condensation de gaz interstellaire où naissent les étoiles. Aux jumelles, elle apparaît comme une petite nuée étoilée, et avec un télescope, elle déploie de grandes ailes nuageuses illuminées par les étoiles qui se sont formées en son sein, principalement quatre supergéantes bleues nommées le trapèze d'Orion.
En vous souhaitant de belles observations, nous vous donnons rendez-vous début mars pour une nouvelle rubrique.
Au revoir.